Mais quel spectacle! C'est Michel Lépinet qui écrit cela dans Paris-Normandie ce matin. Mais quel spectacle! Un président qui se laisse aller aux confidences publiques et pas toujours amène sur ses homologues de pays amis. Façon donneur de leçons et déchaîne une tempête dans la presse internationale. Une ex-candidate à la présidence du pays qui n'en finit plus de se prendre pour la voix de la France et distribue les excuses en son nom. Un porte-parole de l'UMP qui conseille à une adversaire politique de consulter un psychiatre. Mais dans quel monde vivons-nous donc? Tous ces gens n'ont-ils pas mieux à faire, en pleine crise économique, que de nous jouer cette comédie narcissique et puérile? N'y a-t-il pas plus important à soigner par les temps qui courent que les égos des uns ou des autres? Eh bien, on va souscrire totalement à cet éditorial de Michel Lépinet dans Paris-Normandie ce matin. Il est 7h12, merci d'être avec nous. Je change totalement de sujet. Honneur aux infirmières et infirmiers sur RMC ce matin avec Annick Touba, qui est infirmière libérale en Loire-Atlantique et présidente du Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux. Annick Touba, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, nouveauté, les infirmières et infirmiers ne pourront plus s'installer n'importe où. C'est la fin de la liberté d'installation depuis avant-hier, hein, Annick Touba?
Oui, enfin la fin de la liberté d'installation, c'est quand même beaucoup dire.
Ah.
Ça ne sera pas une révolution. D'abord, il faut savoir que c'est un accord avec l'assurance maladie obtenu après plus d'un an de négociations.
Oui.
Nous l'avons conclu parce que nous sommes responsables, nous nous sentons responsables de l'accès aux soins infirmiers de la population d'une manière équitable sur le territoire. Et nous avons un grand écart, nous les infirmières, pour 7 infirmières dans les zones surdotées dans le sud, pour une dans le nord.
Oui.
Donc, ce qui crée des modalités d'exercice différentes, ce qui crée des prises en charge différentes. Quand elles sont nombreuses, elles prennent beaucoup de soins aux personnes âgées dépendantes, que l'assurance maladie voudrait bien, ça c'est aussi une réalité, voir financer parfois par d'autres budgets plus sociaux. Donc notre souci était aussi d'aider à l'installation en zone défavorisée.
Voilà, aider les infirmières à aller s'installer, ou infirmiers, à aller s'installer en zone défavorisée. Pour cela, eh bien, il y a des aides qui sont prévues, jusqu'à 20 000 euros sur 3 ans dans des zones très, très défavorisées.
Qui en fait, après la carte des zonages qui n'est pas encore publiée, seront très très limités. En fait,
oui.
Je crois qu'on a trouvé 5% parce que différents critères rentrent en jeu.
Oui.
Les statistiques avec des chiffres de population qui datent de 99, ça sera vraiment à revoir. Parce
oui.
qu'une personne âgée de plus de 75 ans, elle a maintenant 85 ans.
Oui.
Elle n'a plus 75 ans.
Oui.
Donc le résultat, les zonages sont pas tout à fait encore
oui.
au point, peut-être dans une semaine nous les aurons, mais avec ce que nous avons déjà, les zones surdotées, les limitations d'installation sont peu nombreuses. Mmh. Par exemple, la Corse, il n'y a pas de zone surdotée, il n'y aura pas
ouais.
de limitation.
Il n'y aura pas de limitation. Bon,
non.
Ça veut dire quoi, Annick Touba? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis infirmier diplômé. Avant de m'installer, je vais devoir consulter une carte géographique, si j'ai
oui.
bien compris. Est-ce qu'on pourra m'interdire d'aller m'installer dans une zone où il y a déjà beaucoup d'infirmières et d'infirmiers?
Une zone qui sera classée, surdotée, parce qu'il
ouais.
y a 5 classements,
ouais.
Il n'y aura pas de nouvelles installations.
Voilà, il faudra que j'attende le départ.
Le départ en retraite,
voilà,
l'arrêt d'une infirmière.
Voilà, l'arrêt d'une infirmière ou le départ à la retraite.
Ouais.
Hein? Bon, c'est une façon quand même de répondre aux besoins de la population, Annick Touba. Il y avait urgence, parce que dans certaines régions, pour trouver un infirmier ou une infirmière, c'est pas facile.
Oui, mais hélas, on se rend compte qu'après la carte qu'ils ont établie, là,
oui.
avec tous les critères en jeu,
oui.
eh bien, il y aura très peu. Ça va pas changer.
Ça va pas changer grand-chose. Ah bon?
Non, parce que 5% de zones très
oui,
sous-dotées, c'est
oui.
rien du tout sur le territoire.
Il y en a plus que ça, en fait.
Par exemple, en Ile-de-France, ben parce qu'il y a des zones sous-dotées, celles-là n'auront pas d'aide. Ils donnent l'aide avec parcimonie, vous savez, ça va être donné 5% du territoire.
Oui.
Non, je crois que c'est un faux débat. Le meilleur levier de répartition équitable des infirmières serait de leur donner les moyens réglementaires et légaux d'agir dans toutes leurs compétences. L'enjeu pour demain, c'est pas d'empêcher les professionnels de s'installer, c'est d'écloisonner le système ambulatoire.
Bon.
Qu'elles puissent travailler en coopération, en coordination avec les médecins, avec les pharmaciens.
Bon, est-ce qu'on doit faire la même chose pour les médecins? On en parlera tout à l'heure entre 8h et 8h30. Annick Touba, simplement, je donne un chiffre, hein, 330 infirmières et infirmiers pour 100 000 habitants au bord de la Méditerranée, 70 en banlieue parisienne ou dans la Marne, hein,
oui.
par exemple.
C'est un peu toutes les professions pareilles.
Je sais bien. Merci à vous, hein, Annick Touba.
Merci.
Merci, au revoir. Qu'en pensez-vous? Vous êtes infirmière, infirmier, vous êtes sur RMC. Vous appelez évidemment 3216 rmc.fr 7h17. Mathieu Béliard. Alors Mathieu.
La question SMS du jour, le football, qui sera champion de France de football cette saison? Eh bien pour l'instant, au classement de la question SMS, ça ressemble beaucoup au classement de la Ligue 1, puisque je vais pas vous donner de chiffres détaillés pour le moment, c'est encore trop tôt, mais en tête on a Marseille, suivi de Bordeaux, suivi de Lyon, et suivi logiquement des autres. Vous votez au 6-26-26, Marseille, RMC 1, Bordeaux, RMC 2, l'OL, RMC 3, une autre équipe, Paris, Lille, Toulouse, RMC 4, au 6-26-26. On a Christian qui est supporter de l'OM et qui nous dit, je crois que c'est clair maintenant. Maintenant, on creuse l'écart, encore 6 longues journées, mais ça va le faire pour
Marseille. Enfin, l'écart est de 2 points seulement. Hein. Ouais, 2 points sur Bordeaux, 3 points sur Lyon, oui.
Ils étaient à 1 point la semaine dernière,
c'est vrai,
à 2 maintenant.
C'est vrai.
Il dit encore 6 longues journées, mais ça va le faire pour Marseille. Tom, lui, est supporter bordelais. C'était un gros match pour Bordeaux hier. Il n'y a plus qu'à dérouler maintenant, nous dit-il. Petit à petit, on va prendre la tête de ce championnat. 6-26-26, Marseille RMC 1, Bordeaux RMC 2, Lyon RMC 3 ou les autres RMC 4.
Ou une autre équipe. Hein, ou une autre équipe, parce que d'autres clubs peuvent encore mathématiquement être champions. Merci, il est 7h18. 7h19, comme tous les matins, notre sans commentaire, un journaliste de la rédaction d'RMC se promène en France et va recueillir des informations et se retrouve à des endroits où il se passe quelque chose d'assez étonnant. Samedi, nous étions, enfin c'est pas moi, c'est Christophe Bordet, était à Draguignan dans le Var. Une juge d'application des peines a voulu faire partager son expérience en exclusivité à RMC. Elle a accepté que des détenus, tous musiciens, écoutez bien, des détenus de la prison de Draguignan, tous musiciens, condamnés à des peines allant de 3 à 15 ans de prison pour des braquages, des vols ou pour violence conjugale, elle a accepté que ces détenus jouent à leur demande pour le Festival international des droits de l'enfant qui s'est déroulé à Cannes. Tous ces détenus ont pu déjeuner sur la croisette et sans surveillant avec leur famille. Aucun n'en a profité pour se faire la belle. Tous sont retournés dans leur cellule après le concert. Ces trois détenus sont musiciens. Christophe Bordet les a accompagnés toute la journée de la prison de Draguignan jusque sur la croisette à Cannes. C'est un document exclusif RMC. Je vous conseille vraiment de l'écouter.
Bonjour. J'ai pris ma trousse de toilette, ma chemise de rechange et on va faire un super concert.
Alors vous jouez quoi comme instrument vous?
De la guitare. Ça fait du bien de voir un petit peu la liberté.
Ici on est à Cannes sur la croisette.
Mais je suis heureux moi. Ça fait 5 ans que j'ai pas vu le soleil comme il faut, en liberté.
À travers cette journée un peu particulière, qu'est-ce que vous avez, vous, envie de prouver?
De prouver qu'on peut chuter dans la vie et se relever. C'est pas parce qu'on est tout en bas qu'on est fatalement mort.
Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est la dureté de la prison ou la dureté de se retrouver tout d'un coup dehors comme aujourd'hui?
C'est plutôt la dureté de sortir comme aujourd'hui. Quand on est en prison, on est enfermé, à 6h, ils nous ferment la porte et tous les jours c'est comme ça, quoi. Ça fait drôle d'être dehors, c'est un peu comme l'inconnu. Là, tout à fait.
Alors, elle est pas belle la scène?
Bonne monstre.
Elle est belle.
Waouh.
C'est beau. Hein.
Avec ça, on va faire un carton.
Ouais.
Ah ouais, sérieux.
Je suis Marco.
Vous jouez de quel instrument vous?
Les percussions. Quand je joue sur mes percussions, je suis libre. Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir tapé ma femme. Ouais. L'enfermement refait prendre conscience des vraies valeurs, de ce qui est important dans la vie. C'est la vie de famille.
Moi qui suis la juge de l'application des peines, je fonctionne sur la confiance. Quand quatre hommes vous disent droit dans les yeux, on veut prouver à tout le monde que nous sommes des hommes capables aussi de bonnes choses, comment vous voulez résister?
Certains pourraient vous dire oui, ça peut choquer les victimes.
Est-ce que ça répare vraiment leur souffrance? La société, me semble-t-il, gagne plus à travailler à ce que ces hommes se conduisent comme des citoyens, respectueux des lois, respectueux des autres, qu'à les maintenir dans une méfiance permanente qui, à mon avis, ne peut que déclencher l'agressivité, la colère, la révolte.
Comment ça va se passer les prochains jours maintenant là?
Ben, on va retourner en détention et on espère ressortir, faire un concert pour d'autres enfants. Et on va faire le maximum pour ressortir.
Le rêve se réalise.
Il s'est réalisé ce soir. Ouais. Merci.
Voilà le reportage de Christophe Bordet entre Draguignan et Cannes. Quatre détenus musiciens qui sont sortis. L'espace pas d'une journée. Pour assister au Festival international des droits de l'enfant et jouer et jouer leur musique. Il est 7h23, ils sont rentrés en prison tous les quatre. Il est 7h23.
RMC, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 7h25, c'est l'affaire dont on parle depuis maintenant plusieurs jours, et pourtant, il y a peut-être d'autres priorités dans ce pays. Mais nous sommes avec François de Rugy, député vert de Loire-Atlantique. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous étiez mercredi présent lors de la réunion où Nicolas Sarkozy a parlé des récents sommets internationaux. Il a évoqué ses rencontres avec les chefs d'État et de gouvernement, 12 députés, 12 sénateurs présents, dont vous, François de Rugy. Alors, à propos de Zapatero, José Luis Zapatero, le Premier ministre espagnol, Nicolas Sarkozy aurait dit, il n'est peut-être pas très intelligent, moi j'en connais qui étaient intelligents et qui n'ont pas été au second tour de la présidentielle. C'est ce qu'il a dit ?
Oui, c'est à peu près ce qu'il a dit, ironiquement, s'en prendre aux socialistes français, à la gauche française, oui. Qui n'est pas capable de gagner les élections comme Zapatero, mais aussi sous-entendu comme lui, Sarkozy, bien évidemment.
Oui, donc problème d'interprétation, quoi.
Oui, c'est-à-dire c'est aussi le risque à partir du moment où on choisit ce type de langage, un espèce de langage un peu des propos un peu à tort et à travers, à tu et à toi avec tout le monde, où on porte des jugements très péremptoires, souvent pour se valoriser soi-même, y compris au risque de dévaloriser les autres. Alors quand il s'agit de chef d'État et de gouvernement, évidemment, ça peut quand même poser un peu plus de problèmes dans les relations de la France avec ses partenaires.
Alors pour vous, vous mettez Ségolène Royal et Frédéric Lefebvre, qui estime qu'elle a besoin d'une aide psychologique, dans le même sac.
Je crois que M. Lefebvre, en tant que porte-parole de l'UMP, il n'en est pas non plus à son coup d'essai en matière de propos caricaturaux, outranciers, excessifs. Maintenant, je crois que Mme Royal, qui n'était pas présente à ce déjeuner, n'avait pas à se lancer à son tour dans une surenchère médiatique. Parce que le problème, c'est que à partir du moment où il y a ce genre de polémiques qui font un peu écran de fumée, on ne parle plus du fond. Parle plus du problème qui est celui de la relation de la France avec ses partenaires étrangers. Et est-ce que le style Sarkozy, est-ce que la façon de Sarkozy de traiter les partenaires étrangers de la France est une façon efficace de travailler avec eux ? Moi, je crois que non.
Alors, sur votre blog, François de Rugy, vous rapportez aussi d'autres propos de Nicolas Sarkozy sur Barack Obama. C'est un esprit subtil, très intelligent et très charismatique, mais il est élu depuis 2 mois et n'a jamais géré un ministère de sa vie. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il n'a pas de position. Il n'est pas toujours au niveau de décision et d'efficience. Exemple, la taxe carbone. Bien, sur Angela Merkel, quand elle s'est rendue compte de l'état de ses banques et de son industrie automobile, elle n'a pas eu d'autre choix que de se rallier à ma position. Sur Berlusconi, l'important dans la démocratie, c'est d'être réélu. Regardez Berlusconi, a été réélu 3 fois. Là, il se trompe parce qu'il a été réélu 2 fois seulement, Berlusconi. Enfin bon, peu importe. C'est bien cela, hein ?
Oui, je crois que c'est, si vous voulez, c'est typique de ce que je disais à l'instant sur voilà comment sont traités les partenaires étrangers de la France par celui qui est quand même le président de la République. Nous étions une 20aine de parlementaires à assister à ce déjeuner pour discuter de la meilleure façon de répondre à la crise et des actions qui avaient été menées par la France avec les autres au G20. Et c'est vrai qu'on est un peu étonné qu'au milieu de propos tout à fait sérieux et intéressants sur le G20, d'analyse politique, économique, on passe sans cesse à ce genre de propos extrêmement péremptoires, extrêmement excessifs et pour tout dire un peu vantards du président de la République qui manifestement a quand même un petit problème d'ego avec le président américain parce que avant, lorsque Nicolas Sarkozy était président de l'Union européenne, il a peut-être cru qu'il était devenu un peu le leader du monde. Et évidemment, maintenant, nous avons un président des États-Unis qui occupe toute sa place et qui redonne du sens au leadership américain.
Merci François de Rugy. Merci à vous.
Merci à vous. Bonne journée.
Au revoir. Bonne journée. 7h29. Caterpillar. Hein, je change complètement de sujet, vous l'avez constaté. Caterpillar maintenant, il est 7h42, ça vient de raccrocher. Nous étions avec les salariés de Caterpillar. Pourquoi les salariés ? Parce que les syndicats et la direction de Caterpillar, réunis au ministère de l'économie à Paris, ont conclu hier un accord de fin de conflit qui sera soumis par référendum aux salariés après 9 heures de discussion et 2 mois de conflit. Cet accord prévoit que la direction du constructeur américain d'engins de chantier s'engage à assurer la pérennité de son site dans l'Isère, à Grenoble et Chirolles, et à y réaliser des investissements. Il confirme que le nombre de suppressions de postes est ramené de 733 à 600. Des discussions sur l'aménagement du temps de travail doivent également être conclues avant la fin de l'année. Avant octobre 2009, la direction s'engage à essayer de diminuer le nombre de licenciements, notamment grâce à des formations offertes aux salariés volontaires avec l'aide de la région Rhône-Alpes qui s'y est mise. Des procédures disciplinaires engagées contre 8 salariés sont annulées et les discussions sur l'application du plan de sauvegarde de l'emploi qui devait allait s'achever en début de semaine sont prolongées au 30 avril. Thierry, bonjour.
Bonjour. Jean-Marc.
Merci d'être avec nous ce matin, Thierry. Alors, vous êtes satisfait de cet accord?
Pour l'instant, on va voir.
Oui. Oui.
Pour l'instant, c'est pas fini.
C'est pas fini. Vous avez eu l'accord en gros. Vous n'avez pas encore eu les détails,
ouais, voilà.
Si j'ai bien compris.
Pas, hein. Voilà. On n'a pas encore toutes les modalités et puis on attend de voir réellement ce qui va en sortir quoi.
Oui. Est-ce que je ne vois pas grand chose sur les indemnités prévues pour ceux qui vont perdre leur emploi.
Pour l'instant, elles sont pas chiffrées, donc.
Non, elles ne sont pas chiffrées.
Non. Donc là, pour l'instant, on est encore un petit peu dans le mystère.
Alors, on est revenu à 600 suppressions d'emplois au lieu de 733.
Ouais.
Ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. 600, c'est pas bien, mais.
C'est une avancée. C'est une avancée.
Ouais.
C'est pas le but du mouvement au départ. Hein, nous.
Je sais.
On voit que ça a bougé. Ça a bougé, mais c'est pas figé encore.
Bon, le protocole d'accord sera soumis toute la semaine aux salariés, donc à vous-même, Thierry, par un référendum à bulletin secret. Hein. Et vous allez pouvoir vous exprimer.
Mais on va déjà bien poser les choses, que les gens soient bien au courant de tout.
Voilà.
Avant de faire quoi que ce soit.
Bon, je vous laisse, Thierry. Je vous laisse. On suivra évidemment parce que on suit Caterpillar depuis le début, hein, et on va suivre la conclusion de cette malheureuse conséquence des difficultés économiques, hein, avec quand même, ne l'oublions jamais, 600 suppressions de postes. Il est 7h44. Merci, Thierry. 7h44. Vous êtes sur RMC. Vous réagissez 32-16 rmc.fr à toute l'actualité que vous écoutez. Nous sommes en direct le matin. Vous savez que la différence entre RMC et tous les autres, c'est que nous sommes tout le temps en direct le matin. Première différence. Deuxième différence, c'est que vous êtes avec nous en direct aussi. C'est-à-dire que vous participez tous les matins à l'actualité. Vous la faites avec nous. Il est 8h moins le quart. Il est 7h47, merci d'être avec nous sur RMC. Écoutez bien maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, tout à l'heure nous prendrons clair, hein, à propos des infirmiers et infirmières qui ne pourront pas s'installer n'importe où en France depuis samedi. L'accord est opérationnel maintenant. L'accord est appliqué. Bien, je reviens ce film Slumdog Millionnaire. Je ne sais pas si vous avez vu le film qui a obtenu la Palme d'Or, enfin l'Oscar, qu'est-ce que je dis, la Palme d'Or, le meilleur film à Hollywood, l'Oscar. Si vous l'avez vu, vous allez comprendre, si vous n'avez pas vu, vous allez écouter cette histoire que nous raconte Marie Launay, qui est en direct d'Inde, notre correspondante en Inde. Marie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le père de Rubina Ali, la petite fille indienne devenue une star après avoir joué donc dans ce film Slumdog Millionaire, aurait tenté de vendre sa fille de 9 ans en vue d'une adoption, soi-disant pour échapper au bidonville de Bombay. C'est ce qu'a révélé hier le tabloïd britannique News of the World. Le journal a organisé un véritable guet-apens. Racontez-nous, Marie.
Oui, alors cette histoire a fait la une des quotidiens indiens ce matin. Effectivement, tout a commencé, donc c'est grâce et à cause du journal News of the World. La rédaction du journal avait entendu dire qu'à Bombay, le père de Rubina, donc cette jeune actrice indienne qui joue Latika, enfant dans Slumdog Millionaire, il était prêt à faire adopter sa fille moyennant beaucoup d'argent. Alors le journal lui a effectivement tendu un véritable guet-apens. Un journaliste a débarqué à Bombay où Rubina et son père vivent toujours dans un bidonville. Il s'est fait passer pour un riche cheikh de Dubaï, ému par le film et l'enfant de 9 ans, et le père de Rubina a tout de suite dit qu'il était tout à fait prêt à rencontrer cette personne et qu'il était préoccupé par le futur de sa fille et qu'il était prêt à le rencontrer. Le rendez-vous a été organisé dans la suite d'un grand hôtel de Bombay. L'oncle de la petite fille, qui parle mieux anglais, a mené les négociations en vue de l'adoption. Il a expliqué que depuis les Oscars, la petite fille n'était plus un enfant ordinaire et il a demandé 300 000 euros en échange de Rubina, et tout ça a été filmé en caméra cachée. On peut le voir sur le site du journal britannique.
Voilà, le père s'était déjà plaint de ne pas avoir bénéficié suffisamment du succès, financièrement je veux parler, du succès du film et de sa fille.
Oui, tout à fait, effectivement. Depuis le formidable succès du film à l'étranger, les 8 Oscars à Hollywood, le père de l'actrice se plaignait de ne pas avoir récupéré l'argent grâce à la célébrité, la gloire de sa fille. Il faut savoir que sa fille a touché un peu plus de 2000 euros de cachet pour interpréter Latika enfant. Alors quand il a su que le film avait déjà fait plus de 200 millions d'euros de recettes, ça lui a fait complètement tourner la tête et lui aussi, il s'est dit « Moi aussi, je voudrais gagner des millions, je me verrais bien millionnaire ». Effectivement, c'est pour lui une façon de sortir du bidonville de la misère. Il faut savoir qu'en Inde, vendre son enfant quand on vient d'un milieu très pauvre, c'est pas une chose commune, mais ça arrive. C'est perçu comme une solution pour sauver ses enfants et se sauver soi-même. Mais il est important de souligner que la production du film n'a pas abandonné les deux jeunes héros, car si Robina n'est pas adoptée, elle touchera une bourse jusqu'à sa majorité pour aller à l'école. Elle doit aussi déménager avec sa famille dans un logement décent. Mais évidemment, en tournant ce film, on peut se dire que Danny Boyle, le réalisateur de Slumdog Millionnaire, ne savait sûrement pas dans quel débordement il entraînait les enfants. Et la presse indienne, dans les jours qui viennent, va sûrement suivre l'affaire de près. Donc vous allez en entendre parler de nouveau, je pense.
Merci Marie-Lonnet. En direct d'Inde, il est 8h10. Vous êtes sur RMC, on prend Claire. Claire qui, elle, nous appelle du Var. Bonjour Claire. Claire.
Bonjour.
Bonjour, ça va ce matin, Claire?
Oui, ça va ce matin, ça travaille.
Vous êtes au travail, vous êtes infirmière libérale.
Voilà, tout à fait.
Alors, on vous limite dans votre droit à l'installation. C'est clair, hein, s'il y a trop d'infirmières dans la région où vous voulez vous installer, vous ne pourrez pas, il faudra attendre un départ à la retraite ou une cessation d'activité, Claire.
Oui, tout à fait. Dans notre région, on est en région surdotée, on est dans le Var.
Oui.
Et le problème, comme je le disais, bon, c'est lamentable qu'on soit limité parce qu'on est une des rares professions. On est la seule profession libérale à l'être maintenant. Mais il y a aussi beaucoup d'abus. Il faut quand même en parler. Les gens qui s'installent, qui prennent 4, 3, 4, 5, 6 soins d'hygiène par jour, qui se disent « ça y est, je suis infirmière libérale
oui. ».
Des gens qui ne veulent pas travailler proprement, qui n'éliminent pas les déchets, qui ne veulent pas aller à tous les labos, qui ne veulent pas faire les prises de sang. Moi, j'en connais qui ne se déplacent pas pour moins de 20 euros. Il y a aussi ça fait le lit de cette nouvelle mesure. Donc c'est un petit peu lamentable. Moi, mon remplaçant m'a laissé tomber au lendemain de l'enterrement de mon père pour des problèmes familiaux. C'est une profession où on fait franchement n'importe quoi. Ça fait plus d'un mois, que je recherche quelqu'un. Ah, vous avez des tournées de soins, on réfléchit, il faut éliminer les déchets, il faut travailler proprement. Et ça fait qu'on en est rendu là. Tout le monde s'installe. Puis vous dites, ça y est, j'ai 4-5 personnes en toilette. Ben, ça y est, je suis infirmière. Donc ça
c'est-à-dire la qualité des soins baisse, si j'ai bien compris.
La qualité baisse, oui. Et on a, dans notre région en particulier, le Var, comme il y a beaucoup de personnes âgées, on a mis le rendement en avant plutôt que la qualité des soins. Moi, personnellement, je n'ai qu'une personne en soins d'hygiène et j'ai des soins. Personne ne veut me remplacer. Parce que, bon, il faut réfléchir, il faut éliminer les déchets, il faut ci, il faut ça. C'est sûr, les toilettes, on a moins de frais, on n'a pas d'essence, on n'a pas de matériel, on n'élimine pas. Et malheureusement, il y a aussi ça. On a des infirmières qui ne font que ça. Et je vous dis, moi, quelqu'un devait me remplacer, il me dit, ah ben, j'ai 4 personnes, c'est bon, je suis infirmière. Non, c'est pas ça, c'est tout le reste, quoi. C'est soins, piqûres, pansements, prise de sang, insuline, c'est tout un travail, infirmière. C'est pas simplement le travail d'aide-soignante.
Merci Claire.
Merci
bon courage dans tous les cas.
Merci.
Bonne
Merci
journée.
Beaucoup,
Et je
bon
sais
courage,
que les journées sont longues pour les infirmiers ou infirmières. Il est 7h52. Il est 7h54. Mathieu Béliard.
Et la question SMS Mathieu. Du jour, qui sera champion de France de football cette saison? Eh bien, comme tout à l'heure, Jean-Jacques, c'est dans le même ordre que celui de la Ligue 1. Donc Marseille, Bordeaux, Lyon et puis ensuite les autres, Paris Saint-Germain, Lille, Toulouse. Vous continuez à voter au 6-26-26, Marseille, RMC 1, Bordeaux, RMC 2, Lyon, RMC 3 et pour une autre équipe, RMC 4. On a eu quelques réactions et notamment celle d'André qui m'a fait sourire. André, il parle comme un coach en fait. Il dit, on est en difficulté, c'est sûr, mais on est loin d'être décroché. Tout peut arriver. Et Lyon sortira renforcé de cette fin de championnat, nous a envoyé comme message André.
Oui.
Sinon, on réagit également au 32-16 et sur les mails sur d'autres sujets,
Allez.
Comme Marie qui nous parle de Ségolène Royal et qui nous dit « Je ne défends que rarement Sarkozy, mais là je dois avouer que je ne comprends plus grand-chose à Ségolène Royal. Elle dépasse un peu les limites de ses responsabilités », nous dit-elle. Ou alors Anne qui vient de réagir au sujet des infirmières, elle dit « C'est difficile, je comprends, de ne pas avoir le choix du lieu d'installation dans sa carrière, mais c'est trop important de ne pas laisser tomber les zones rurales ».
Il est 7h55. Les zones rurales ou les banlieues parisiennes qui sont sous-dotées. 7h55.
Pour intervenir en direct sur RMC, appelez le 3216, touche 1.
8h05, la conso, le high-tech, comme tous les matins avec Isabelle Saporta et François Sorel. Isabelle, bonjour.
Bonjour.
Bonjour François Sorel.
Bonjour à tous les deux.
La parité sur RMC. La semaine dernière, c'est Isabelle qui commençait avec la conso. Eh bien, cette semaine, c'est vous, François.
Bah écoutez, si elle n'y voit pas d'inconvénience, moi, c'est comme vous voulez.
Allez, on est d'accord,
c'est
Isabelle.
C'est à fond pour la parité.
Alors, il commence en nous présentant ce matin, François, vous nous faites découvrir une jeune société française, une start-up basée en Isère et qui propose la lecture de magazines sur Internet.
Alors, écoutez bien, je trouve ça génial. La société se nomme Zine et propose une idée toute simple, mais très intéressante, feuilleter des magazines sur Internet. Mais le plus fort est la lecture automatique de ce livre par une voix synthétique. Alors écoutez ce que ça donne.
Magazine d'information de la ville d'Auxerre.
Donc là, vous êtes en train de feuilleter un magazine sur Internet. Oui. Et ce magazine est lu par une voix synthétique. D'accord. Imaginez les perspectives que cela ouvre pour les non-voyants, oui. les étrangers qui ne savent pas lire le français mais qui le comprennent, et enfin pour les enfants aussi qui ne savent pas encore lire mais qui veulent par exemple trouver des magazines pour enfants qui pourraient lire. C'est quand même étonnant.
Oui. Est-ce qu'il est pratique de lire un magazine sur Internet ?
Alors oui, ça marche bien. D'ailleurs, la société Relais que on connaît tous, vous
oui,
savez, les
dans
kiosques,
les gares, oui.
voilà qu'on trouve dans les gares, les aéroports, propose un site où vous pouvez acheter à peu près n'importe quel magazine et le feuilleter sur Internet. Pratique aussi pour tous les francophones qui sont à l'autre bout du monde et qui n'ont pas accès aux versions papier. Mais la force donc de ce concept Zine, de cette start-up de l'Isère, c'est la lecture automatique de la revue que l'on vient d'acheter. Ben voilà, on a écouté un petit peu à quoi ouais. ça ressemblait. Je trouve que c'est quand même assez étonnant.
Et puis c'est écologique.
Et oui, autre avantage.
Chaque magazine lu sur le web, c'est du papier économisé.
Complètement. Et puis un autre avantage qui est intéressant, c'est le prix. Par exemple, pour une somme forfaitaire de 18 euros par mois, vous avez accès sur le site de Relais à la totalité des nouveaux magazines du mois, de Paris Match à Elle, en passant par Télé 7 jours. C'est en génial. Fait, c'est comme si vous rentriez dans oui. un kiosque et que vous aviez accès à tous les magazines que vous voulez. Vous pouvez les lire de manière illimitée.
Oui, vous n'avez pas d'appareil qui permet de lire les photos. Pas encore, non.
Alors, sur l'ordinateur, sur votre ordi, vous allez pouvoir feuilleter
je
le
vois
livre,
les
comme les photos, oui, bien sûr, c'est la même chose que le magazine, bien sûr, bien sûr. Là, c'est illimité, c'est-à-dire que vous ne payez plus le magazine au numéro, vous achetez un forfait et vous regardez ce que vous voulez.
Bien, Isabelle, ça vous plaît ce magazine
Moi, je trouve que c'est une très bonne idée.
Cet appareil qui permet de lire sur Internet et magazines, enfin de lire, on ne lit pas d'ailleurs.
Oui, c'est
ça.
On vous lit, vous choisissez en fait. Pour les non-voyants, je trouve que c'est pas mal.
Oui. Les compléments alimentaires, miracle ou arnaque, Isabelle?
Une petite devinette, Jean-Jacques, François, quel marché a doublé entre 2004 et 2007 et devrait encore être multiplié par deux d'ici 2012.
Mon poids.
Les compléments alimentaires. Ils affichent une forme athlétique et pèsent aujourd'hui près d'un milliard d'euros.
Meilleure forme que celle de François.
C'est gentil, Jean-Jacques. Mais je vous aurai.
D'accord. Pourquoi ça marche si fort ?
Eh bien, écoutez, parce que c'est vraiment des pilules du bonheur. Ils ont réponse à tout. Votre peau grille au soleil, la ménopause vous guette, les rides vous angoissent. Une seule solution, se ruer vers les compléments alimentaires dont la boîte est entre 15 et 20 euros.
Eunobiol est le leader du marché. Eunobiol vend une boîte de compléments solaires toutes les 15 secondes en France.
Ça laisse rêveur. Hein.
Est-ce que ça sert à quelque chose, franchement ?
Écoutez, c'est souvent inutile et pas toujours si inoffensif qu'on le croit. Deux exemples. La vitamine E, qu'on a beaucoup prescrite en disant que ça limitait les risques cardiovasculaires, oui. il pourrait, enfin, en fait, ça augmenterait plutôt les risques d'accidents vasculaires cérébraux.
Ah bon, d'accord.
Et le bêta-carotène, qu'on pensait aidant pour lutter
pour
contre le cancer.
Peau, oui, oui.
Et
mais
ben, en fait,
la
ça
prévention
protège,
du cancer. Oui.
Et ça protège les cellules cancéreuses. Donc,
ah bon, d'accord. Bon, Même la fameuse cure hivernale de vitamine C, censée nous redonner du tonus et lutter contre les rhumes serait inutile.
Écoutez, seuls les marathoniens ou les soldats en conditions extrêmes pourraient tirer profit de la vitamine C en développant 10% de rhume en moins. Ça fait pas beaucoup. Hein.
Et la DGCCRF qui veille vient d'ailleurs d'épingler les fausses promesses des compléments alimentaires.
En 2008, sur 1760 contrôles réalisés, près de 220 anomalies ont été relevées et c'est toujours de la tromperie aux consommateurs.
Mais on laisse tomber les compléments alimentaires et on mange plus équilibré.
Exactement. Il faut mieux prendre des légumes secs plutôt que du magnésium, des carottes et des abricots plutôt que du bêta-carotène, des sardines et des maquereaux plutôt que des oméga-3 et puis des pommes et des tomates plutôt que des coupes fins. C'est pas le bonheur, ça.
Merci Isabelle.
C'est un bon steak, non
ouais, un bon steak, oui, c'est bien.
Alors, vous savez,
on n'entend pas trop, mais quand même,
monsieur
Isabelle.
Que si, le steak.
Vous savez que nous, les garçons, on aime bien la viande rouge.
Mais vous savez, on a parlé. Et la vache.
Bon, d'accord. Merci et à demain.
À demain.